Action. Sur mon prochain 8000, j'emmène la radio du cinéma.
J'ai le grand bonheur de croiser aujourd'hui aux éditions Glénat qui nous accueillent pour la présentation d'un livre qui s'appelle « Les 14-8000 de Sophie Lavaux ». François Damilano, bonjour François.
Bonjour.
Bienvenue à la radio du cinéma. Alors François, vous êtes un alpiniste émérite. Vous avez largement contribué à l'émergence en fait de l'escalade glaciaire. Mais aujourd'hui, nous allons parler de manière un peu plus générale et vous allez profiter pour vous présenter d'une collaboration que vous avez eue avec une personne qui s'appelle Sophie Lavaux. Vous en avez fait un film, plusieurs, mais on va parler du dernier en question qui boucle la boucle. François, si vous voulez bien vous présenter en quelques lignes, en quelques mots, pour qu'on découvre un petit peu le personnage.
Alors, je suis né au Mans et j'ai vécu au Mans.
Ce n'est pas une terre de montagne.
Non, qui n'est pas une terre de montagne, mais avec des parents qui étaient passionnés d'alpinisme et à une époque où les montagnes étaient encore plus loin qu'aujourd'hui des pays de plaine, parce qu'on ne circulait pas avec autant de facilité. Et du coup, je ne connaissais la montagne que lors des vacances d'été familiales. Mais tout le long de l'année, j'avais la chance de pratiquer des sports de plein air avec mes parents qui avaient créé une section du club alpin français. Mais alors, bizarrement, dans un pays de plaine, qu'est-ce qu'on fait quand on anime une section du club alpin français? Ben, on joue au scout durant les week-ends. On fait de la spéléo dans les 2-3 grottes à proximité. On va grimper sur des tout petits bouts de rochers qui ne dépassent pas 15 mètres d'altitude. Mais surtout, on s'entoure d'une bibliothèque alpine. Et on est immergé dans la littérature alpine et himalayenne.
C'est marrant, vous avez fait une contraction qui est assez amusante.
Oui, la littérature. Parce que je veux parler trop vite.
Non, c'est bien. Alors justement, en fait, on peut citer le nom de l'éditeur qui vous accompagne sur ce projet d'édition, donc les éditions Glénat. Vous évoquez en fait la littérature, vous êtes un homme de lettres, un homme de médias, en fait, vous aimez le cinéma, la télévision, vous allez développer tout ça, mais au fond, en fait, la translation entre votre intérêt pour la montagne et le fait de pouvoir le traduire sur des médias quels qu'ils soient, que ce soit du papier, de la réalisation de reportages, de documentaires, comment ça s'est présenté à vous?
Mais parce que j'ai d'abord vécu l'alpinisme et mon alpinisme à travers le récit. Il n'existe pas d'alpinisme sans récit. Qu'est-ce que je veux dire par là? À partir du moment où c'est une pratique hors stade, hors médias, hors récompense institutionnelle, ce que vivent les alpinistes dans leur montagne n'existe auprès du public que par la manière dont ils le racontent. Donc on le sait, hein, depuis le début de l'alpinisme, nous avons à notre disposition tous les grands récits. Et en fait, c'est ça qui constitue notre histoire et notre culture de l'alpinisme. C'est pour ça que la littérature alpine et la littérature himalayenne sont si importants. Donc, une fois de plus, étant originaire de la plaine, j'ai d'abord vécu par procuration à travers l'écrit. Et c'est finalement, quand moi je suis devenu guide d'haute montagne et que je me suis vraiment lancé dans ma carrière.
Ça vous est arrivé à quel âge, ça, en fait?
Je suis devenu guide à 25 ans, mais j'ai quitté Le Mans, j'avais 20 ans. Pour rejoindre effectivement un peu certains chaudrons de...
Tout ce que vous aviez pu lire, emmagasiner.
Et tout ce que j'avais envie de vivre. Donc j'ai d'abord rejoint la capitale des Alpes, entre guillemets, qui est Grenoble, où se trouvent d'ailleurs les éditions Glénat. Et puis après, j'ai émigré à Chamonix. Mais du coup, pour moi, c'est lié. C'est-à-dire que pourquoi on connaît l'alpinisme dans le grand public? Parce qu'on a tous lu des livres de nos grands aînés.
Des récits.
On a tous lu les récits de Gaston Rebuffat. De Maurice Herzog à Annapurna Premier 8000, de Louis Lachenal, de son compagnon Lionel Terray avec Les Conquérants de l'Inutile. Quel punchline complètement dingue d'avoir inventé ce titre, Les Conquérants de l'Inutile. Lui, il était bon en pub. Hein. Et puis toute la filmographie. Et en fait, ces gens-là, non seulement racontaient leur alpinisme, mais en plus, souvent, ils tournaient avec des cinéastes. Et ils venaient dans les villes de province, dans les villes de plaine, avec leurs films et dédicacer leurs livres. Donc probablement que de manière inconsciente, les deux activités sont liées.
Tout ça, ça vous a nourri, François, en fait.
Oui, moi je suis nourri du récit et de l'alpinisme. Donc à un moment donné, c'était presque prédestiné, au-delà de ma propre volonté, que d'écrire et que de me saisir d'une caméra pour raconter.
Ça s'est imposé comme une évidence, quoi.
Mais c'est vrai que dès que je suis arrivé à Grenoble, je me suis rapproché des médias, et des médias en plus émergents au tournant des années 80. D'accord. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a vu l'apparition des revues spécialisées de montagne, mais des magazines commerciaux, on pourrait appeler ça comme ça, alors qu'avant, il n'existait qu'une revue institutionnelle, celle de la Fédération
du CAF. Qui s'appelait comment ?
qui s'appelait La Montagne Alpinisme et qui D'accord. existe toujours. Mmh. Mais à la fin des années 70, début des années 80, il y a l'émergence de Alpinisme et Randonnée, le titre parisien, Montagne Magazine, le titre grenoblois. Mmh. Et tout d'un coup, il y avait une autre manière justement d'aborder le récit de montagne. Donc moi, de cette génération-là, ayant 20 ans à cette époque-là, je me suis évidemment, j'ai sauté, je
Bien
me
sûr,
suis
imprégné ouais.
de ces nouveaux codes Bien et sûr. Cette nouvelle manière de raconter un alpinisme qui était en pleine évolution. Donc tout ça a toujours été mêlé. D'accord. Et finalement, 24 ans, ma première expédition, on va ouvrir un nouvel itinéraire sur le mont Kenya. Et je pars avec une équipe de cinéastes et on réalise un premier film, plutôt assez mauvais. Qui a reçu la Bourse de l'Aventure, émission emblématique de la télévision de l'époque. Mais voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai toujours construit en fait les deux démarches en parallèle. Oui. À tel point que par moment, je ne sais pas si je grimpe pour raconter ou si je raconte pour grimper.
J'imagine que vous avez croisé beaucoup d'aventuriers. Comment, à un moment donné, vous croisez la vie de Sophie Lavaux ? Qu'est-ce qui a fait que cette personne en particulier, qui n'est pas une alpiniste professionnelle, c'est une personne en fait qui est arrivée un peu dans votre vie, de quelle manière ?
En fait, on se croise tout à fait par les hasards de la vie, D'accord. sur les flancs d'une montagne qui s'appelle le Chichapangma,
qui
est le plus petit des 14 montagnes de D'accord. plus de 8000 mètres, qui se trouve au Tibet, donc en Chine. Ouais. C'est en 2012, je guide une expédition avec deux clients, et Sophie est inscrite à une expédition dite commerciale, une expédition guidée, un tour opérateur, et en fait, on se côtoie au camp de base comme ça se pratique sur ces montagnes, parce qu'on se retrouve au pied de la montagne. Toutes les expéditions s'organisent individuellement, mais on est sur le même emplacement, donc en fonction des affinités, des circonstances de la vie, on se croise. Il s'avère qu'elle, elle fait partie d'un groupe d'une expédition suisse, mais qui est composée de membres suisse-allemands. Et elle en a marre d'entendre parler suisse-allemand oui. dans les tentes, et à un moment donné, elle vient boire le thé dans notre modeste temps, parce que nous, on était une toute petite expédition là, avec mes deux camarades. Et c'est comme ça qu'on lit, si ce n'est amitié, en tout cas complicité. Mm-hmm. Et c'est surtout ce qui se passe, c'est que pour sa première incursion sur une très haute montagne, Sophie va non seulement réussir ce sommet qui s'appelle le Chichapangma, mais 10 jours plus tard, elle va réussir un second sommet de plus de 8000 mètres qui s'appelle le Shouyu. Il y a 12 ans en arrière, ce n'était pas encore si commun que ça d'enchaîner des grandes montagnes à ce rythme-là. Et surtout, ce n'était pas du tout commun chez les Françaises. Mmh. Et quand on se retrouve à Chamonix, parce qu'on se recroise au retour de l'expédition, je lui dis « Ah, tu devrais aller voir sur les statistiques. Je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui a réussi comme ça de 8000. » Et puis surtout, je lui dis autre chose.
Là, on parle de ces deux premiers, on est d'accord.
De ces deux premiers, 2012. Voilà. Réussi deux sommets, voilà. Le Chicha et le Shouyu. Mais c'est surtout que je lui dis « Maintenant que tu as réussi le Chicha et le Shouyu, qui sont petits 8000,
il en reste 12.
Non, tu vas aller à l'Everest.
D'accord.
Et pourquoi je lui dis ça ? Parce que je suis moi-même himalayiste. D'accord. Moi, je fais partie du sérail des performeurs et des himalayistes. Je sais bien comment ça se passe dans la tête des alpinistes. Mmh. Ou bien on se contente de ce bâton de maréchal, d'avoir réussi un sommet de plus de 8000 mètres, ce qui est très bien sur un CV pour les dîners en ville. Mais une fois qu'on a fait ça, si on avait continué, bien évidemment, on va vers le plus haut. Mmh. Donc il reste l'Everest. Et là, Sophie me dit non, il est hors de question, c'est trop cher, il y a trop de monde. Enfin, vous savez, tous les préjugés qu'on a sur l'Everest, encore aujourd'hui, avec l'actualité de notre ami Enoch Stagg. Tous les biais cognitifs qu'on a autour de cette montagne. Mmh. Et bien évidemment, 6 mois plus tard, elle vient me voir en me disant, François, je me suis inscrit à une expédition à l'Everest. Et c'est là que je lui propose de la suivre avec ma caméra. J'avais commencé à faire des films en tant que réalisateur, des films d'altitude, on va appeler ça comme ça. Et en fait, je me suis simplement dit, mais ça, c'est un personnage, c'est une protagoniste qui va probablement me permettre d'exprimer un certain nombre de choses que je pense ou que j'ai vécues dans le milieu de l'himalayisme. J'en ai fait mon personnage de film, donc on a fait un premier film à l'Everest qui s'appelle « On va marcher sur l'Everest ». 2 ans plus tard, je la suis lors de sa tentative sur le second sommet de la Terre qui s'appelle le K2. Là, on se prend la montagne sur la tête, donc ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. Ça donne une autre vision de l'himalayisme de très haute altitude.
Quand vous dites on se prend la montagne sur la tête...
Une avalanche va balayer notre camp d'altitude, nous épargner à pas grand-chose près.
Soyons un peu plus précis, rentrons un peu dans les détails de cette situation, parce que là, en fait, évidemment, on raconte ça avec un peu de recul, c'est super joli à entendre.
Et avec de l'euphémisme même.
mais globalement, quand on est comme ça, en fait, au milieu de rien, qu'on est quasiment seul, et que d'un seul coup, la nature se met un tout petit peu à éternuer, de quelle manière, en fait, humainement parlant, cette solitude est peut-être le dernier instant que vous allez vivre sur la Terre?
Nous sommes repartis du camp de base, nous sommes acclimatés, nous avons fait plusieurs allers-retours sur la montagne, on a souvent été repoussés par le mauvais temps, et enfin, les prévisionnistes météo nous annoncent un créneau, une fenêtre météo qui va nous permettre de tenter le sommet. Nous sommes dans la tentative du sommet, tout se passe bien, il fait merveilleusement beau, après quand même un système dépressionnaire qui a bien mis de la neige partout. Voilà, on était coincés pendant 48 heures dans une petite tente, c'est enfin le grand beau temps. Et on entend une détonation, et quelqu'un crie, hurle, avalanche, avalanche, donc d'une tente à côté de nous. Et on entend un bruit absolument monstrueux, donc comme moi, à ce moment-là, je suis imprégné de mon obsession de filmer, je prends aussitôt une caméra et j'ouvre la tente et je filme ce qui se passe. Alors que mes camarades essayent de fermer la tente de façon à ce que s'il y a de la neige qui rentre, elle ne rentre pas dans la tente. Mais moi, il ne s'agit pas de savoir s'il y a un peu de neige qui rentre ou pas, parce qu'en fait, la question fondamentale que se pose notre cerveau reptilien, ça se passe en très très peu de temps, c'est est-ce qu'on va mourir ou est-ce qu'on va survivre? Donc c'est psychiquement une terreur absolue, une impuissance considérable, parce que de toute façon, je suis dans cette petite tente, sur un éperon rocheux, au-dessus du vide. Si la avalanche nous balaye, on ne peut absolument rien faire. Donc vous voyez, il y a ce sentiment-là, et puis en même temps, j'ai le réflexe de filmer, et probablement que, comme je suis quelqu'un qui est plutôt du côté de la vie, j'ai une espérance folle que nous allons survivre, et en même temps, je ne contrôle plus rien de la situation. Il s'avère que, comme notre tente est bien placée sur un éperon rocheux, l'avalanche va nous secouer, le souffle va secouer la toile de tente, mais va passer à côté. Par contre, cette avalanche qui est partie de très très haut sur la montagne va balayer notre camp supérieur où on a déjà dormi pour l'acclimatation, où on a fait une dépose de matériel en prévision du sommet, et du coup ça veut dire qu'on n'a plus le matériel pour tenter la montagne, donc ça veut dire que l'expédition est terminée. Et après c'est très étrange parce que juste après l'avalanche, il y a un double sentiment qui nous anime. Il y a le sentiment humain, nous sommes en vie, le syndrome du survivant bien évidemment, et on a une joie profonde de dépasser notre peur et d'être en vie, et en même temps on a immédiatement une frustration aussi grande que la montagne parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir atteindre le sommet. Ça veut dire que dans le cerveau des alpinistes, quand il y a comme ça ce que j'appellerais une circonstance un peu étrange, ce n'est qu'une anecdote parce que nous on est obsédés par le sommet. La plupart des humains normalement constitués auraient dit: on est vivant, rentrons à la maison. Ouais. Mais nous, il ne s'agit pas de ça.
L'intérêt supérieur,
nous, il s'agit que
c'est l'accession.
Cette avalanche, au final, va juste nous empêcher le sommet. Donc voilà, ça explique la manière aussi dont on peut gérer et le risque et notre psyché quand on est investi dans ces grandes montagnes. Et non pas que l'on recherche la mort, mais on en a fait une affaire qu'on a décidé de mettre de côté. On le gère pour que cette peur de la mort ne soit pas un frein. Peut-être un peu difficile comme ça, c'est peut-être un peu conceptuel. Ça n'empêche. C'est comme si, pour aller dans cet espace très transgressif de la très haute altitude, où le corps humain n'est métaboliquement pas conçu pour survivre, par manque d'oxygénation, donc c'est extrêmement transgressif, il faut absolument mettre de côté tout ce qui nous rattache à la société, à la vie d'en bas, au nôtre. Sinon, ce sont des freins trop puissants, on ne montera pas là-haut. Si on est trop du côté de la vie, on ne monte pas en très haute altitude. C'est le second film qui s'appelle K2, une journée particulière. Évidemment, une référence à Ettore Scola.
Bien sûr.
C'est un peu osé, mais voilà, on a quand même des cinéastes dans la tête qui nous font référence. Et voilà, K2, une journée particulière. Ce n'est pas tout à fait les mêmes circonstances que dans le film d'Ettore Scola.
Ce que vous nous offrez à penser par rapport à ça, c'est de comprendre que finalement, si on n'a pas une vision permanente de l'objectif à atteindre, j'ai envie de dire, quelles que soient les circonstances vraiment de l'instant, on fait pas ce genre d'expérience, quoi.
C'est-à-dire que l'Himalaya, c'est trop. C'est le monde du trop. C'est trop loin, c'est trop grand,
c'est trop haut,
il fait trop froid. Donc, si l'on décide d'aller dans ces paysages avec de la mesure, On est en décalage complet. Ouais. Il faut accepter la démesure. Ouais. Et puis, moi, je n'ai pas de rapport mystique avec la montagne. Pour moi, la montagne, c'est un tas de neige, un tas de cailloux. Hein. Il ne s'y passe que ce que l'homme y amène. Ça, c'est ma façon d'aborder l'alpinisme. Mais si à un moment donné, on n'est pas dans l'acceptation de cet univers qui est trop grand, on ne peut pas y aller, c'est impossible, on va être complètement écrasé. Et d'ailleurs, je connais des très forts grimpeurs, très forts alpinistes, qui lors de leur première expédition, au bout de quelques jours au pied de la montagne dans le camp de base, ou après un ou deux allers-retours sur les premiers camps, ont refait leur sac et sont rentrés en Europe. Parce qu'à un moment donné, c'était un terrain de jeu, d'expression, qui ne leur correspondait plus. Puis il ne faut pas oublier effectivement cette notion de risque que vous avez abordée tout à l'heure. Il y a un écrivain américain qui a écrit un bouquin qui est très référentiel, qui s'appelle Tragédie à l'Everest, autour d'une expédition qui tourne mal en 96 sur l'Everest. En exergue de son livre, il a cette phrase « Si l'himalayisme est un jeu, ce n'est pas un jeu innocent ». Je trouve que tout est dit avec John Krakauer.
Quand on est comme ça en expédition, ça dure combien de temps ?
Une expédition sur un 8000, c'est un voyage, et c'est aussi l'un des intérêts de gravir les 8000, c'est que ça force à partir loin et longtemps. Tous les 8000 mètres sont en Himalaya, répartis sur trois pays qui sont le Népal, le Tibet et le Pakistan. Donc obligatoirement, on va sur le sous-continent indien. Et puis, il faut du temps. Alors, il faut du temps non seulement pour se déplacer, mais il faut du temps pour aller au pied des montagnes, entre la dernière route, la dernière piste et le pied de la montagne. Des fois, il faut 10 jours, 15 jours de marche d'approche. Et puis, il faut du temps pour permettre au corps de s'accommoder au manque d'oxygène, au manque de pression atmosphérique. Donc, ce travail avec le temps qui passe, c'est probablement l'un des intérêts les plus grands de l'himalayisme. Obligé de faire cette césure dans sa vie. Alors aujourd'hui, on est rattrapé. Hein. On est rattrapé par les moyens de communication, on est rattrapé par, y compris les moyens de déplacement, puisque beaucoup d'Himalayistes, maintenant, essayent de chanter les marches d'approche en utilisant l'hélicoptère, etc., etc. Donc on peut toujours raccourcir le temps. On peut même s'acclimater au manque d'oxygène dans des tentes hypoxiques dans son salon. Bon, pour la vie de couple, c'est pas forcément une idée absolument fabuleuse, mais certains Himalayistes qui ne veulent pas partir trop longtemps en Himalaya montent une petite tente qui est dépressurisée, vont dormir tous les soirs dans la petite tente dans le salon, ce qui leur permet normalement de gagner quelques jours ou quelques dizaines de jours pour l'acclimatation.
D'accord.
Je ne suis pas tout à fait dans ce jeu-là parce que probablement que le romantisme de la littérature himalayenne une fois de plus m'emporte et moi j'ai envie de ce grand voyage. J'ai envie de ce prétexte d'aller voir ailleurs, bien évidemment. Et puis d'avoir cette césure avec la vie sociale.
C'est ça, donc c'est véritablement... Alors, on n'a pas précisé, mais concrètement, une expédition, c'est quoi ? C'est 3 mois, 6 mois ?
Non, une expédition sur un 8000, c'est entre un mois et demi et 2 mois.
Ce qui est énorme.
Mais c'est déjà pas simple. Hein. Si vous, demain matin, vous annoncez à votre famille « je pars sur un 8000, je pars 2 mois », vous voyez, pour vous organiser professionnellement, pour vous organiser socialement, familialement, et économiser un peu les sous pour payer, c'est un vrai investissement. Alors... Il y a des gens qui ont des gros revenus et puis qui changent de 4x4 tous les ans ou qui flambent au casino. Oui. Donc en même temps, c'est aussi des choix de vie d'aller dépenser de l'argent pour gravir les montagnes.
Alors on peut véritablement parler en fait d'une retraite presque spirituelle. Et justement, je voulais vous demander en fait si dans le cadre d'une expédition, il vous arrive de méditer, de pratiquer le yoga, de finalement en fait de vous créer une espèce de chrysalide.
Alors pas du tout et complètement. Donc pas du tout un certain nombre de vos propositions, c'est-à-dire je ne sors pas de ma tente en position de yogi et à me mettre en transcendante auprès des éléments. Ce n'est pas ma philosophie de vie.
D'accord.
Je ne suis pas très développement personnel, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, bien sûr.
Par contre, l'immersion, là je peux témoigner de ça. Bien sûr qu'à un moment donné, quand on est au pied de ces grandes montagnes, dans les éléments, on parle de connexion avec la nature. On n'est pas connecté comme des électriciens au réseau. Mais à un moment donné, on comprend bien qu'à vivre au quotidien, dans les changements de température, dans les changements de météo, dans les changements du métabolisme, il y a une connexion avec l'environnement qui est extrêmement importante. On a les sensations de froid, de chaud, de manière absolument exagérée et exacerbée, je dirais. Et tout est exacerbé en altitude. Tout ce que vous ressentez est exacerbé. Aussi bien des moments de forte émotion, on va être foudroyé par la beauté d'un paysage tout d'un coup qui va nous envahir, que par des moments de souffrance dus à l'hypoxie ou à l'inconfort des situations. Donc bien sûr que cette immersion, elle est extrêmement importante. L'himalayisme et l'alpinisme, c'est aussi une auberge espagnole. Donc vous allez retrouver en Himalaya la diversité des humains que vous trouvez partout ailleurs. Donc, si vous interviewez un autre Himalayiste, peut-être va-t-il avoir une autre forme d'expression. Et je connais des Himalayistes et des Himalayistes célèbres qui parlaient aux montagnes ou qui s'adressaient à Dieu pour demander à Dieu « Mais laisse-moi monter !» Entre autres, c'est le second alpiniste qui a réussi l'ascension des 14 000. C'est un Polonais qui s'appelle Jerzy Kukuczka, qui est un garçon qui a un parcours très particulier.
Que vous connaissez personnellement ?
Non, que je ne connais pas particulièrement. Et qui est mort sur l'une des montagnes et qui n'est plus là pour témoigner.
D'accord.
Mais qui a démarré au fond de la mine et qui est devenu le second homme à avoir réussi les 14 000. Donc c'est quand même un parcours particulier. Il avait un rapport comme ça qui était complètement transcendantal avec la montagne. Et peut-être une fois de plus que mon goût du récit m'oblige en permanence à avoir un pas de côté. On connaît bien ça chez les cinéastes. Et moi, on me l'a dit, répété quand j'ai commencé à me saisir d'une caméra. Quand tu as fait un plan, tu n'es pas photographe. Donc aussitôt, tu fais un pas de côté, tu t'éloignes, tu penses à tes plans de coupe. Enfin, cette espèce d'obsession de construire, non pas une vision, mais une séquence. Ce qui est la définition pour moi du cinéma, tel qu'on m'a essayé de me faire passer. Donc à partir du moment où vous êtes comme ça impliqué dans un travail de récit, vous regardez le monde fonctionner complètement différemment. Et moi, j'aime regarder le monde à travers la focale d'une caméra ou par l'intermédiaire d'un stylo.
Tout à l'heure, par rapport à cette fameuse avalanche, où vous avez la conscience de vous dire « Mais attends, il faut d'abord que je commence à filmer avant de penser si je vais mourir ou continuer à vivre. » Cette conscience-là, en fait, quelque part, elle vous accompagne aussi dans toute cette démarche narrative et quelque part qui, d'une certaine façon, vous protège de certains dangers évidents.
Mais je m'en nourris, elle m'en nourrit. C'est une obsession. C'est pas une préoccupation, c'est une obsession. Je ne pense que film. Je ne pense qu'à mon histoire. Et après, je vais aller encore plus loin et puis vous m'économisez quelques séances de psychanalyste. Je vous en remercie. L'himalayisme, la performance en haute montagne, à haute dose, tue. C'est statistique. Donc à un moment donné, quand ça fait 10 ans, quand ça fait 15 ans, quand ça fait 20 ans...
On devient de plus en plus exposé.
Quand ça fait 25 ans, statistiquement...
Le danger
n'est pas en ma faveur, bien évidemment. C'est comme le conducteur sur la route. Plus vous conduisez, plus vous avez un risque d'avoir... Même si vous êtes extrêmement prudent et expérimenté. C'est une question statistique, c'est des maths, ça. Et probablement qu'à un moment donné, que de me saisir de la caméra et de me mettre comme témoin et un peu moins comme acteur, a été aussi une forme de protection. C'est-à-dire, je continue d'alimenter ma motivation d'alpiniste et d'himalayiste, mais en ne m'obligeant pas d'être dans cette obsession de la performance. Et l'obsession de la performance, elle est dangereuse, on le sait.
On va revenir à cette relation avec Sophie Lavaux, puisque l'actualité, évidemment, nous amène à ce film qui boucle, entre guillemets, et à la fois les 14 sommets qui correspondent aux 14 sommets qui dépassent les 8000 mètres dans le monde. Il faut quand même saluer cette performance, puisque c'est une des rares femmes à avoir réussi ce challenge. Le danger rôde en permanence, et malgré tout, eh bien, il y a comme une espèce de force intérieure qui fait avancer Sophie et donc votre équipe par le prisme de votre captation, et on est vraiment en inside, et la souffrance, elle est là, quoi. Je pèse mes mots, c'est vraiment une expérience, en fait.
Oui, alors après, puisqu'on est sur une radio de cinéma, on peut-être faire attention aux éléments de dramaturgie. Bien sûr que dans l'alpinisme, la dramaturgie est l'élément clé qui tient le spectateur en haleine,
évidemment,
ou le lecteur en haleine. Et là, on a un petit paradoxe, nous d'ailleurs, les alpinistes. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance en permanence à minimiser le danger de notre pratique, soit en revendiquant notre savoir-faire, soit en esquivant la réalité triviale de ce qui peut se passer si ça se passe mal en montagne. Et en même temps, on sait très bien que le fil qui titille la curiosité de l'interlocuteur, il est autour du danger. Et là, une fois de plus, le danger, c'est pas juste de s'égratigner. Le danger, on parle de vie ou de mort. Mais c'est cette tension qui est intéressante dans l'alpinisme. C'est cette tension qui est intéressante dans le métier de guide d'haute montagne. Si je fais une erreur d'évaluation, si j'assure mal mon compagnon de cordée au moment où il trébuche sur une arête, les conséquences, elles sont vie-mort. C'est pas banal en termes de responsabilité, en termes de confiance et en termes d'engagement. C'est ça aussi qui rend l'alpinisme intéressant. On peut le réfuter, on peut le repousser en disant hors de moi ce sceptre de la mort qui rôde, mais ça n'empêche que ça existe. C'est pas pour ça qu'on y va, mais ça fait partie évidemment des clés de compréhension et en particulier du spectacle, de la mise en spectacle de l'alpinisme. On sait très bien que nous-mêmes, on est tout le temps en train de jouer avec l'impression qu'on va donner au spectateur, et on sait très bien qu'un film qui ne dégage pas de la tension, une forme de dramaturgie, va perdre en chemin ses spectateurs. Et puis en même temps, on voudrait ne pas s'enfermer dans ce discours dans lequel vous m'interrogez davantage de cette notion de risque et des dangers. Comme si le danger était un être qui rôdait autour de nous. Non, non, mais le danger, c'est nous. C'est pas quelque chose d'extérieur à nous. C'est nous, dans la manière dont on pénètre ces montagnes ou qu'on décide de les gravir. Le danger, ce n'est que nous. Donc c'est en sens ça que c'est introspectif et intéressant aussi, l'alpinisme.
Expliquez-nous techniquement, on va faire un tout petit peu de technique, mais comment est-ce qu'un film est rendu possible dans des conditions aussi extrêmes et avec aussi peu de moyens physiques à votre disposition?
Un documentaire, c'est un propos, un angle. Et bien évidemment, moi faisant du cinéma de montagne dans les années 2020, je ne vais pas faire le film définitif sur les expéditions himalayennes. Il y a des films depuis 150 ans. Je ne vais pas écrire avec chez Glénat le film définitif sur l'himalayisme, quoique. Parce que je viens effectivement remplir une bibliothèque himalayenne qui est déjà bien fournie. Donc ça nous oblige à réfléchir sur le propos que je veux tenir à partir de cette expérience particulière d'aller filmer Sophie Lavaux au Nanga Parbat pour le dernier sommet, ou à partir de son parcours particulier. Mais une fois de plus, je ne suis pas le biographe de Sophie, je ne suis pas la géographe, je ne suis pas son community manager et je ne suis pas un film, je ne réalise pas un film commandité par le protagoniste. Je suis un réalisateur de documentaires indépendant. Je choisis mon angle, je choisis mon histoire, le protagoniste l'accepte, je filme ce que je veux, comme j'ai envie, et c'est surtout que quand j'arrive en salle de montage, je refuse l'accès de la salle de montage à Sophie Lavaux. Il est hors de question que pendant les 13 semaines de montage, elle vienne regarder mon travail. Elle ne découvre le film que lorsqu'il est fini, et j'en assume toutes les conséquences officielles. Pourquoi ça? Parce qu'il est hors de question que je gomme ou que j'arrondisse les reliefs du film. Et bien évidemment que le protagoniste, inconsciemment, dans sa tête, il imagine une histoire, il s'imagine dans sa propre histoire. Surtout ces héros de l'himalayisme qui sont tout là-haut sur la montagne, en levant les bras au ciel. Imaginez l'image forte qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc il est hors de question qu'elle participe à la construction du film, ou alors ce serait un tout autre film. Donc effectivement, Sophie n'a découvert les trois films que j'ai faits qu'au moment où ils allaient être livrés au public. Il est hors de question que je change la moindre séquence au film. Dans les films d'aventure, on imagine un projet, on a une première phase d'écriture qui est souvent adaptée avec la rencontre avec les maisons de production, avec le diffuseur, Pulse indispensable si on veut trouver les moyens de produire ces films. Et puis une fois qu'on a écrit toute cette histoire, on est confronté à la réalité. Et généralement, ça ne se passe pas du tout comme on a imaginé l'histoire. Donc moi, ma difficulté quand je rentre avec mes rushs et que je rentre en salle de montage, c'est de me réapproprier la réalité que j'ai vécue, sachant qu'elle est complètement différente de celle que j'avais projetée et que probablement j'ai même perdu mon sujet. Vous imaginez bien qu'au K2, quand on rentre bredouille sans le sommet, en n'ayant pas dépassé l'altitude où pour ce film-là, j'avais imaginé commencer de filmer. Je voulais faire un film uniquement en immersion les 24 dernières heures du dernier camp sommet dans cette bulle hypoxique très particulière. Sur le K2, j'atteins même pas l'endroit où j'avais imaginé commencer le film. Donc là, le travail de réécriture et de réappropriation de la réalité, il est immense. Et là, pareil, pour le dernier sommet, quand je rentre en salle de montage avec la monteuse Delphine Dufriche, je la cite parce que c'est très important.
Bien sûr.
Il faut tout réécrire. Et pourquoi je cite la collaboration avec la monteuse? Parce que ce binôme réalisateur-monteur, il est aussi important que le binôme de l'accordé sur la montagne que je filme.
Bien sûr. C'est le copilote de pilote de rallye, quoi.
Et c'est plus que le copilote. Ouais. Pour moi, dans le cas de figure, c'est quasiment la co-réalisatrice.
Ouais.
Parce que son regard détaché de l'affect des images va me permettre de prendre de la distance.
Bien sûr.
Parce qu'elle ne connaît pas l'himalayisme, parce qu'elle ne connaît pas le monde de l'aventure, donc ça va être ma première spectatrice qui va m'obliger à sortir de mes codes, qui sont évidemment complètement intégrés de par mon milieu. Et ce travail de dialogue qu'on va avoir avec donc, la monteuse, il est très important pour que j'aille là où fondamentalement j'ai besoin d'aller. Et c'est très drôle d'ailleurs parce qu'elle m'a beaucoup interrogé avant qu'on monte le premier plan. On passe 2 jours en fait, raconte-moi. Moi j'étais un peu impatient de commencer le montage de film. Non, raconte-moi, elle avait besoin de comprendre ce que fondamentalement je cherchais à faire dire mon personnage. Et ce travail de maturation, de construction du film, mais comme celui d'écriture d'un livre, il me passionne particulièrement. Il est super difficile, je souffre beaucoup, je pleure beaucoup, mais fondamentalement j'aime ça parce que j'y retourne.
François, vous ne nous avez pas donné trop de détails sur l'aspect technique.
Ça ne m'intéresse pas.
Non, mais rapidement, comme ça, en fait, quel matériel on est en capacité d'amener ? Parce qu'on ne se rend pas compte, mais les images, il faut quand même les faire. Et comment ça se passe ? Et puis surtout, en fait, j'imagine que quand narrativement, vous avez des images en tête, j'imagine que vous choisissez quand même un minimum vos points de vue, je suppose, à certains moments en tout cas. Comment on peut occasionner cette gymnastique ? C'est des efforts quand même considérables.
2 choses, donc le matériel, je réponds rapidement au matériel. Ouais. Aujourd'hui, on bénéficie quand même de la sophistication, de la miniaturisation du matériel.
Plus léger.
Avec un boîtier, 2 objectifs, voire 1 objectif en très haute altitude, parce qu'on ne peut même plus changer d'objectif à cause du mauvais temps, etc. etc. Un micro qu'on surrajoute, on arrive à capter la réalité de manière très qualitative. Maintenant, je sais que je ne suis pas dans un studio de cinéma, bien évidemment. Donc à un moment donné, il va falloir absolument en permanence que j'accepte de ne pouvoir faire que ce que je fais. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que je joue en permanence le rôle du chien de berger autour de mon personnage. C'est-à-dire que quand Sophie, elle grimpe, il faut que je sois à côté d'elle, mais en même temps, il faut que je sois devant, et en même temps, de l'autre côté, et en même temps, tant qu'à faire sur la montagne d'en face, et en même temps, en train de piloter un drone. Ça veut dire que mon obsession fait que je filme non-stop pendant toute la durée de l'expédition, y compris pendant les périodes de repos. Et au besoin, je vais gravir un autre sommet pour avoir des plans subjectifs, bon, etc., etc. Mais ça, c'est mon boulot, et presque, je dirais, c'est mon plaisir de réalisateur de montagne. C'est la manière dont mon savoir-faire d'himalayiste et de guide se met au service de la caméra et de l'image.
Mais François, vous n'êtes pas un guide, vous êtes un héros de la montagne.
Non mais ça parce que vous avez une vision romantique et du cinéma et de l'alpinisme. Mais bien sûr que je ne vais pas me qualifier
incroyable.
Comme ça. Mais bien sûr que j'en fais un spectacle et je vous remercie que ça vous impressionne. Ça veut dire que l'immersion du film fonctionne. Mais bien sûr qu'il y a un jeu de ça. Et d'ailleurs, il y a certaines scènes du film lorsque Sophie refuse la présence de la caméra. Ça interroge inconsciemment le spectateur. Qu'est-ce qui se passe puisque la caméra est stable alors que la protagoniste est en difficulté? Qu'est-ce qui se passe puisque la protagoniste demande à la caméra de s'éteindre et que la caméra ne s'éteint pas? Il y a une espèce de décalage. Donc effectivement, on peut se poser la question, bah tiens, il y aurait un être humain derrière la caméra, ce n'est pas seulement une intelligence artificielle. Donc ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, c'est qui a le pouvoir à l'intérieur d'un film? Comment se positionne la protagoniste? Comment se positionne le réalisateur, qui a le pouvoir après, hein, quand on produit le film. Est-ce que c'est la salle de montage dans le binôme avec la monteuse, ou est-ce que c'est la production déléguée, ou est-ce que c'est le diffuseur? On connaît très très bien cette triangulation. Il y avait un excellent numéro des Cahiers du cinéma où les monteurs témoignaient. Ça a été l'un de mes articles de chevet pendant le montage du film.
Alors on parle évidemment de ça, mais le son est très important aussi. L'instant vécu avec beaucoup d'émotions, du danger que ça véhicule, etc. Ça, c'est important parce que la présence sonore dans ce type de film, en fait, elle crée quasiment tout, quoi.
Ben, je suis dans la même obsession du son que je peux l'être avec l'image. Ça veut dire qu'il faut que je me préoccupe en permanence parce que j'ai pas de preneur de son, j'ai pas de perchman. Il faut que je m'occupe en permanence aussi de faire du son. Il faut que je relance mon personnage qui est pas toujours très bavard. Il faut que j'arrive à capter le son de la nature. Le vent, la neige, les crissements de crampons, le bruit des cordes. C'est des éléments qui sont extrêmement importants parce que c'est ceux qui nous alimentent, nous, en termes alpinistiques. Nous, on est dans ce son-là. Et il y avait quelque chose qui était très important pour moi aussi d'arriver à faire ressentir dans le film, c'est le souffle. À partir du moment où on est en hypoxie, où l'on cherche en permanence la respiration, je voulais essayer que le spectateur soit à bout de souffle, pour reprendre le titre d'un film, qu'il soit asphyxié lui-même, et puis qu'il soit dans ce
immersif,
son...
immersif, quoi.
Oui, puis dans ce son amplifié. Vous savez, quand vous essayez de reprendre votre souffle, le bruit de votre souffle, il est immense.
Absolument.
Et je voulais absolument ça. Et puis, du coup, il y a eu un travail avec le musicien, c'est très important.
On peut le citer, hein.
On peut le citer, qui s'appelle Léopold Droit, un super musicien. Et pareil, dans nos premières entrevues, quand on a commencé à réfléchir sur le film, je lui ai dit, je veux surtout pas de musique de film. Je veux dire par là, je voulais pas de mélodie.
Oui.
Et surtout, tu ne me fais pas de népalaiserie. Hein, je veux pas de flûte de pan et de gling-gling et de clochette. Interdis tout ça.
Oui.
Fais-moi des sons, ce qu'ils appellent des nappes. Mmh. Et le film, effectivement, il est illustré avec une bande sonore qui est faite de nappes. C'est-à-dire que moi, je veux... seulement qu'il y ait des sons qui soient presque psychiques et qui accentuent l'immersion. À la limite, la seule mélodie qui est à l'intérieur du film, c'est une mélodie prise sur le vif quand nos amis pakistanais qui nous accompagnent au camp de base se mettent à chanter et à danser à un moment festif de leur quotidien, où là, effectivement, j'enregistre, ou un appel à la prière complètement dingue d'un pakistanais qui monte tous les matins et tous les soirs sur son rocher à quelques dizaines de mètres du camp de base, il y a son appel à la prière là, qui résonne dans cette caisse de résonance, dans ce cirque de montagne. Bon, c'est complètement dingue, quoi.
Évidemment, ce film, c'est une étape très importante puisqu'il boucle l'histoire de votre relation professionnelle avec Sophie Lavaux. Et donc, de ce film est né ce livre. Ce livre donc que vous avez pu éditer grâce aux éditions Glénat. Ce livre s'appelle donc Les 14 8000 de Sophie Lavaux. Mais évidemment, ce livre, c'est aussi une porte ouverte, non seulement à tous les sommets les plus importants de la planète au-delà de 8000, et c'est aussi des témoignages, c'est pléthore de choses entre passionnés qui vont évidemment rendre curieux des gens qui ne sont pas forcément concernés par le monde de l'alpinisme et de la montagne.
Et après, les deux récits, film et livre, ils se complètent, ils se regardent, ils s'accompagnent. Et bien évidemment que l'écriture d'un livre permet de s'attarder sur des explications, sur des complexifications de cette réalité que ne permet pas nécessairement un film, parce qu'on est tenu par une autre dramaturgie. Donc pour moi, c'était évident que les deux formes de récits aller s'accompagner, et je suis très heureux de ce livre, franchement.
Je m'interrogeais sur une chose, François, les photos qui sont commises dans ce livre, vous en êtes, j'imagine, pour partie l'auteur, mais est-ce que Sophie a fait quelques photos ?
C'est important de le souligner, c'est un livre contemporain sur l'himalayisme, c'est-à-dire que je me suis interdit d'aller chercher des archives. C'est pas un livre où on va de nouveau voir les photos en noir et blanc, ouais, de Hillary à l'Everest en 53,
ouais, c'est pas de l'illustration.
De Herzog en 50.
C'est,
ouais. C'est un livre contemporain, ouais, sur l'himalayisme contemporain.
C'est un inside.
Et pour répondre à votre question, la plupart des photos sont issues de la photothèque de Sophie Lavaux. Donc je me suis appuyé, nous nous sommes appuyés avant tout sur son expérience de ces 14 8000, donc des photos qui sont prises là dans la dernière décennie, et puis complétées par quelques photos de ma photothèque ou d'autres alpinistes. Mais c'est important de le souligner, c'est effectivement à partir de l'expérience de Sophie, c'est un livre contemporain sur le 8000isme.
Merci infiniment, cher François, pour ce témoignage extrêmement palpitant. Il y a une tradition à la radio du cinéma, on va quand même parler un tout petit peu de cinéma dans son ensemble. Je vais vous demander, s'il vous plaît, en fait, de me donner votre film préféré, de votre musique préférée et de votre réplique préférée.
J'avoue que 2001 ou l'Odyssée de l'espace, Kubrick, reste une référence absolue pour moi.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Alors, musicalement, alors les Marquises de Jacques Brel, c'est quand même sur le temps qui passe. On ne peut être que sensible à cette mise en poésie de la dramaturgie du temps qui passe. Mm-hmm.
Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux Marquises.
Et puis, pour être un peu plus léger, et puis d'actualité, une citation ou une réplique, puisque c'est ça votre question.
Absolument.
On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Évidemment, Michel Blanc, évidemment, les bronzés font du ski. Et pour moi, ça boucle, parce que j'ai failli répondre dans mes films préférés, les bronzés font du ski. C'est pas forcément hyper intello, mais qu'est-ce que c'est intéressant. Et c'est très méchant.